Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc François Delaunay au micro, vous êtes bien pour la 63e fois dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM. Combien de temps durera encore l'humanité, Ben ? On verra bien. Voilà, comme disait Karl Marx, il y a 150 ans.
Ouais, raconte-nous ce qu'il disait sur la question.
Poser la question, c'est déjà y répondre.
Je ne savais pas que c'était Karl, mais...
Mais moi, je l'aime bien. Donc, effectivement, alors, Karl Marx, il y a 150 ans, avait fondé, presque, on ne s'était pas tout à fait aujourd'hui, mais c'est le 150e anniversaire de l'Association internationale ouvrière. Donc, j'ai découvert ça récemment dans les papiers.
Depuis que j'ai eu mon anniversaire, tu aimes parler des anniversaires.
Eh bien, voilà. Alors là, c'est... Bon, celui de Karl Marx, je n'ai pas vérifié quand est-ce que c'était. Mais on y revient. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est que effectivement, l'humanité n'est pas éternelle, c'est continuer à faire autant de bêtises que ces derniers temps. Donc voilà, bon, on y reviendra. Mais parce qu'aujourd'hui, effectivement, il va falloir aussi apprendre à se battre, à se défendre, à travailler sur ces questions-là. Et puis, aujourd'hui, on est gâtés quand même, parce qu'on a au moins des spécialistes du sujet, puisque on a des syndicalistes sur le plateau, mais de toute façon, c'est pas moi qui vais les présenter, puisqu'aujourd'hui, on ouvre le nouveau cycle radiophonique des arènes de l'écologie. Donc en mai, c'est la Gen Z prend les manettes. Et pour commencer, donc c'est Laure Goroy. Bonjour Laure.
Bonjour, oui, je suis Laure Goroy, je suis doctorante en sociologie du travail et des relations professionnelles et je m'intéresse à l'engagement environnemental des syndicalistes dans des contextes d'adaptation du travail aux enjeux climatiques.
D'accord. Et alors, qui c'est que tu nous as invités aujourd'hui ?
Eh bien, on a un super plateau, en effet. Merci beaucoup à toutes et tous d'être là. On a Pauline Riffaut, qui est doctorante en sociologie du travail, du syndicalisme et de l'environnement à l'IDHES à Panthéon-Sorbonne, qui s'intéresse à l'engagement environnemental des syndicalistes cadres. On a ensuite Tayeb Kouira, secrétaire national et co-animateur de la commission écologie du syndicat Solidaire et également travailleur dans le secteur de l'aérien. Et enfin, on a Sébastien Delavoux, syndicaliste CGT, animateur du réseau des services départementaux d'incendie et de secours de la Fédération des services publics. Merci à toutes et tous d'être là.
Eh bien bonjour, mais on va pas vous passer la parole tout de suite, c'est comme ça dans les arènes de l'écologie. On commence toujours par la bonne nouvelle de Théo, la bonne nouvelle de la semaine. Alors qu'est-ce qui nous a préparé cette semaine Théo ?
Et oui, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de notre bonne nouvelle de la semaine. Alors la plupart du temps, j'explique dans cette chronique que la nature dispose déjà des solutions nécessaires à nos problèmes environnementaux et climatiques, néanmoins certaines technologies seront aussi très prometteuses et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Et plus précisément, je vais vous parler des technologies de capture de CO2, qui est pour rappel le gaz à effet de serre le plus répandu dans l'atmosphère. Alors je fais tout de suite un disclaimer, le meilleur moyen de capturer ce CO2, c'est encore de ne pas l'émettre, et tous les articles que j'ai pu lire sur le sujet sont très clairs, ces technologies de capture de carbone ne doivent en aucun cas remplacer les efforts de réduction de nos émissions. Cependant, même avec tous les efforts du monde, il existe ce qu'on appelle des émissions incompressibles, c'est-à-dire des émissions inévitables, même pour un secteur décarboné au maximum. Et donc depuis plusieurs années maintenant, des technologies de capture de CO2 émergent et se développent un peu partout, l'idée étant ici de capturer le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Et je précise aussi que même si ces procédés sont encore relativement nouveaux, on est loin d'une solution un peu expérimentale, un peu incertaine, puisque même le GIEC mentionne ces procédés comme une partie de la solution à la question climatique, là encore en précisant que ça ne doit en aucun cas remplacer les efforts de réduction de nos émissions. Toujours est-il que pour en revenir à la capture du CO2, il y a notamment un procédé qui est porteur d'espoir sur ce sujet, c'est le DAC, le Direct Air Capture. Très concrètement, il faut voir ça comme un énorme filtre à air capable d'isoler le CO2 du reste de l'air ambiant par un procédé chimique. Ensuite, concernant ce CO2 capturé, il existe plusieurs solutions plus ou moins durables. La première solution, relativement durable, c'est d'injecter ce CO2 capturé dans des roches poreuses où il sera piégé et isolé de l'atmosphère. Néanmoins, le procédé le plus prometteur, c'est encore de transformer directement le CO2 en roche. On parle alors de fossilisation du CO2, et c'est de loin la solution la plus durable, puisque même exposé au grand jour, à l'air ambiant, plus aucun gaz ne s'en échappera. Alors pour nuancer tout ça, il faut quand même noter que ces procédés sont loin d'être des solutions miracles. Pour l'instant, le procédé de capture du CO2 notamment est encore très coûteux, on parle d'environ 1 500 € pour capter une tonne de CO2, et au-delà de la question financière, le deuxième gros défaut de ce procédé, c'est qu'il nécessite environ 5 tonnes d'eau par tonne de CO2 capturé, à quoi il faut ajouter 1,5 kg de solvant chimique. Même si des recherches visent à simplifier ce processus, c'est donc un procédé encore très lourd. Ceci étant, et pour finir sur une bonne note, c'est quand même génial de se dire que même le CO2 déjà dans l'atmosphère n'est plus une donnée irréversible et qu'on peut agir sur ce point. Et ça, c'est quand même une super nouvelle. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Théo. Bon, bah écoute, oui, ces sujets de technosolutionnisme pourraient ouvrir un long débat, mais on va pas le faire maintenant, mais on va noter ça. Je suis pas certain que tout le monde soit complètement d'accord sur ces perspectives de technosolutionnisme. Mais moi, je voulais, avant de te passer la parole, Ben, et que tu nous fasses ta chronique surprise, je voulais aussi terminer sur annoncer que... Puis on va faire le podcast des récits de biodiversité qu'on a fait durant le dernier cycle de la Voix de la biodiversité. Et puis je voulais aussi annoncer que les Arènes de l'écologie participeront au premier festival d'histoire naturelle qui va être créé en début juin à Montbard, en Bourgogne. Alors pourquoi cette commune ? Eh bien parce que c'est la patrie de Buffon et d'Aubenton. Donc les précurseurs au XVIIIe siècle du Muséum d'Histoire Naturelle qu'on a derrière l'immeuble qu'on a en face du studio, et bien on a le Jardin des Plantes, ben, le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc voilà, donc je voulais dire ceci, mais bon Ben, à toi.
C'est important, oui, voilà. Que tu puisses parler de géographie.
Non, c'est pas de la géographie pour le coup, c'est des sciences naturelles. D'accord. Mais t'inquiète, alors par contre, oui, c'est le 4, 5 et 6 juin à Montbard. En Bourgogne. Mais on en reparlera parce que ça va être peut-être une de nos premières sorties des arènes de l'écologie. Allez, vas-y Ben.
Bon, alors moi je vais vous parler quand même de concepts très simples dont l'un d'entre eux c'est l'écologie de guerre. Alors, l'écologie de guerre, c'est un concept assez moderne. D'ailleurs, je crois que c'est à partir de 2021-22 qu'on a commencé à vraiment en parler. Et l'un de leurs gourous de l'écologie de guerre, c'est monsieur Pierre Charbonnier, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui fait beaucoup de bruit. Je crois qu'il est prof à Sciences Po, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que je prévois déjà le débat qu'on va avoir sur le fait de savoir jusqu'à quel point les travailleurs peuvent à la fois travailler sur la défense de leur emploi et la défense d'un certain type de produit, dont des matériels de guerre, ça peut aussi intervenir. Mais je trouvais ça intéressant de vous parler de cette écologie de guerre dans la mesure où ce sont maintenant une grande partie des voix écolos qui sont en train de dire qu'il faut l'être pour des raisons, non pas des raisons purement écologiques, mais pour des raisons géopolitiques. C'est-à-dire que le nouveau mot d'ordre va être... à la fois défendre par exemple nos sols et défendre à la fois des considérations de guerre. Par exemple, le fait de vouloir isoler nos maisons, c'est isoler nos maisons et isoler Poutine, à la fois. Donc ça fait partie d'un nouveau chemin. Qui est pris par certains écolos, dont, par exemple, faire du vélo, c'est pas seulement bien pour la planète, pas seulement bien par rapport au CO2, mais c'est une façon pour les uns et les autres de ne pas dépendre du pétrole. Suivez mon regard.
Pas d'une pierre deux coups, quoi.
Exactement. Alors, je continue là-dessus avec un deuxième concept qui est devenu très à la mode, c'est le TNPCF.
Waouh.
le traité de non-prolifération des combustibles fossiles. Ça, c'est devenu, dans les débats, les grands débats internationaux, c'est devenu le summum, dans la mesure où on ne parle pas seulement de non-prolifération nucléaire, ce qui est déjà un débat intéressant, mais on parle aujourd'hui de plus en plus de comment on peut se débarrasser de tout ce qui est pétrole, gaz et compagnie. Et ça fait partie d'un... Alors, ça a été à l'initiative à la fois de certains États aux Nations Unies et aussi de ce qu'on appelle joliment la société civile, c'est-à-dire des ONG qui se sont aussi... qui ont aussi raccroché ces wagons. Donc, je voulais vous parler de ça parce que je pense que c'est intéressant de prendre en compte cette dimension-là. Le traité de non-prolifération, tu te rappelles, des combustibles fossiles.
J'ai noté.
Tu as noté. TNPCF. Et bon, je...
Mais bon, grosso modo, c'est le mariage, non pas de la carpe et du lapin, mais c'est le mariage de l'écologie et de la paix, quoi. C'est ça que
c'est le mariage de l'écologie et de la paix, exactement.
Eh ben, voilà. Ouais. Donc, effectivement...
Tu as bien résumé le concept.
Bon, eh ben, c'est ça. Quelque part, ça donne aussi... un petit peu d'introduction au débat qui va être le nôtre, puisqu'on va être sur l'écologie et le travail avec nos amis syndicalistes. C'est vrai que, comme on se le disait il y a quelques temps, bah, les syndicats et l'écologie, on ne les a pas toujours bien vus ensemble. Mais bon, ils vont répondre à tout ça. Moi, je voulais parler effectivement de l'agenda de Madame la Ministre, parce qu'il nous manquait la semaine dernière. Hein, je ne sais pas ce qui s'était passé, il y avait un bug. On n'a pas su ce qu'a fait Madame Monique Barbu. Alors cette semaine, imaginez-vous que... elle a commencé très fort, puisqu'elle a commencé à la Maison de la Chimie, a commencé par la convention sur la réduction des gaz méthane dans le cadre de la conférence du G7 sur l'environnement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi parler du méthane aujourd'hui alors qu'on a un problème d'essence? Je vois déjà un certain prince charmant... De la princesse à deux balles s'émouvoir de tout cela. Oui, quoi, on ne peut pas mettre d'essence dans les réservoirs, et vous nous parlez de méthane, mais c'est quoi ce truc? Eh bien, imaginez-vous que le méthane, certes, aujourd'hui, c'est le gentil gaz naturel quand il est sur Terre, mais quand il part dans les limbes et dans le ciel, ben, ça devient quand même un sacré gaz à effet de serre qui est 80 fois plus efficace que le CO2. Et c'est vrai qu'il est passé un peu sous les radars du GIEC. On estime que le méthane, c'est 45% de la cause du réchauffement climatique. Donc, dit comme ça, on se dit, mais pourquoi ils ne s'en sont pas préoccupés avant? Surtout que ça fait quand même déjà 3 ou 4 ans que l'UNESCO avait sonné sonnette d'alarme. Je crois avoir fait quelques papiers là-dessus. Et notamment examiner les sources de ce méthane. Alors certes, il y a les lagunes, il y a les mangroves, les rizières, qu'on va avoir du mal à limiter. Il y a bien sûr, naturellement, les vaches et qui éructent du méthane, ce qu'on appelle les gaz entériques, essentiellement en Amérique latine, pour ne pas le dire. Et puis il y a une autre troisième cause, d'ailleurs la plus importante, c'est tout simplement les fuites dans les tuyaux de l'industrie pétrolière, donc que ce soit l'extraction ou même les mines. Et je vous le donne en mille, qui est le champion du monde de ça? Eh bien, c'est à... Comment dire? Ça dépasse même les USA par tête de pipe. Eh bien, c'est la Russie. Poutine est le champion du monde des fuites de méthane. Donc, effectivement, ça pose quand même un peu problème. Mais c'est vrai que pour aller dire « Monsieur Poutine, est-ce que tu peux mettre une rustine sur ton gazoduc ?» ça ne va pas être simple. Bon, en tout cas, voilà. Alors c'est vrai qu'on aurait pu attendre aussi Madame barbu sur un autre sujet, notamment celui de l'ADEME. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais se trame un truc de démantèlement un petit peu du dispositif. Aujourd'hui, l'ADEME, c'est une agence un peu autonome, certes sous tutelle du ministère de l'Environnement et puis de l'Économie ou de l'Industrie. Et là, il s'agirait de passer les antennes régionales de l'ADEME directement sous la coupe des préfets. Donc ça reviendrait à la mettre aux ordres du ministère de l'Intérieur et du Premier ministre. Et grosso modo, le monde de l'environnement n'aurait plus son mot à dire sur la gestion des fonds et des aides ADEME. Donc voilà, il y a de quoi quand même s'inquiéter et on aimerait qu'on en parle un peu plus. Alors c'est vrai que la guerre d'Hormuz et celle d'Ukraine occupent beaucoup les plateaux télé. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais on va bientôt pouvoir rentrer dans le vif du sujet et on va interroger nos amis syndicalistes parce que quand même, Laure, syndicalisme et écologie, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup ça matcher, hein, ça restait un peu discret. Hein.
Bah, écoute, pour ma défense, et je suis sûre que tu en seras convaincu, pour moi ce sujet il est primordial. Les appels à la sobriété et à la responsabilité des citoyennes et des citoyens se multiplient pour œuvrer en faveur de l'écologie. La diminution des impacts environnementaux, des activités humaines sur nos écosystèmes, elle suppose des changements profonds. Et ces changements, ils ont à voir avec les modes de consommation, mais aussi avec le tissu économique et industriel. Et donc, face à ces enjeux, les organisations syndicales, elles ont un rôle majeur à jouer, tant au niveau des entreprises, au niveau local, qu'au niveau national. Et
On va laisser nos amis répondre, après la pause musicale, bien évidemment. Allez, on lance la musique et après on vous donne la parole, Sébastien, et puis Taïeb. C'est bien ça, Taïeb ?
C'est ça.
Parfait, je me suis pas planté pour une fois.
Oui,
oh là là.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
J'ai grandi quand les rebeux c'était pas la mode. J'étais frais jusqu'en 2001 puis je suis devenu moche. Je voulais plus écouter Dry, je voulais écouter Con. J'imitais l'accent de mon vieux pour faire rire l'école. Même quand j'avais rien fait, j'avais peur de monsieur l'agent qui m'a dit dans les yeux qu'il voulait que je quitte la France. Me renvoyer au bled alors je parle même pas la langue. Car mon père pensait que pour m'intégrer fallait pas me l'apprendre. Rien que je me pose des questions, faut que j'entre à la maison. Et la maison c'est où? J'suis entre des lignes, j'écris pile au milieu. C'est brouillon mais c'est nous. Rien que je me pose des questions, faut que j'entre à la maison. Et la maison c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place. Ni d'ici ni de là-bas. C'est brouillon mais c'est nous. La honte, je comprends un peu mais je parle pas bien la langue. La honte, la honte. Ah bon, t'es surpris que j'ai fait des études, pourquoi? Raconte, alors, ça compte depuis l'époque de la marelle. Rien n'a changé, c'est pareil. Pour qu'on m'aime, y'a que deux choix. Soit je marque des buts, soit je les fais marrer. Quand je parle bien, je suis invendu. Quand je dis ouais, je fais la cité. Aujourd'hui c'est brouillon, demain c'est bien dessiné. J'avais honte, je ramenais jamais de meuf chez moi. J'avais peur qu'elle tombe sur ma cousine ou ma mère. Ma soeur, mon frère, la voisine d'en bas, la caissière. Le maire, rien que je me pose des questions. Faut que j'entre à la maison. Et la maison c'est où? J'suis entre des lignes. J'écris pile au milieu. C'est brouillon mais c'est nous. Je me pose des questions, faut que je rentre à la maison. Et la maison c'est où? J'ai du mal à me sentir à ma place. Ni d'ici ni de là-bas. C'est brouillon mais c'est long.
Eh bien alors.
Je passe désormais la parole à nos invités qui, j'imagine, partagent mon point de vue que j'ai énoncé, mais qui peuvent bien évidemment revenir dessus. Dans un premier temps, je m'adresse à Taïeb de Solidaire et à Sébastien de la CGT. Pour vous, concilier fin du mois et fin du monde, est-ce vraiment possible?
Alors, faut parler dans le micro, Taïeb.
D'accord, désolé.
Non, complètement dans le micro.
Ah, carrément.
Ah, carrément. Bien en ligne.
Alors moi, pour répondre à ta question, moi je vais pas dire qu'est-ce que c'est possible, mais je vais plutôt répondre que c'est pour nous c'est indispensable. Mais on peut pas embarquer les travailleurs et les travailleuses dans la reconversion de notre économie s'ils sont les seuls à subir cette reconversion de l'appareil productif et bien sûr sans suppression d'emplois et sans que les ménages les plus défavorisés subissent les conséquences, notamment dans les transports, mais aussi sur les isolations des logements. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'à Solidaire, on essaye d'apporter, notamment au sein de l'AES, l'Alliance écologique et sociale, dont fait partie Solidaire, avec aussi les Amis de la Terre, Greenpeace, la Confédération paysanne et d'autres. Donc, pour nous, on peut pas... On doit mettre les travailleurs et les travailleuses à contribution, mais pas, on ne doit pas faire du paternalisme, mais plutôt de l'accompagnement sur un sujet qui est aussi central pour nous.
Sébastien, si tu veux rebondir.
Oui, c'est effectivement indispensable, mais on ne peut pas culpabiliser les gens qui habitent dans des passoires thermiques et leur reprocher le réchauffement climatique quand les autres se baladent en jet. Donc il y a d'abord une question, collectivement, on n'a jamais été aussi riches. Et on voit en fait que de toute manière, c'est ceux en fait qui sont le plus riches, qui ont le pouvoir et qui sont les plus producteurs. C'est aussi ceux qui décident en fait d'organiser des cérémonies ou qui décident de prendre le jet pour aller faire des courses à Milan quand le soir en fait ils sont revenus à Paris. Donc culpabiliser les gens en fait qui comptent leurs sous pour essayer en fait de manger à leur faim, c'est toujours la solution de simplicité. Évidemment, en fait, on s'inscrit pas dans cette démarche.
Et dans la continuité de vos réflexions, d'un côté, on voit une écologie consensuelle qui favorise la RSE et les petits gestes, et de l'autre, le concept de l'écologie punitive qui refuse toute mesure risquant de modifier le mode de vie actuel et de plus en plus employé par des politiques de droite et d'extrême droite. Et ces droites, elles y voient une opportunité marketing un peu politique pour capter un électorat. Et toi, Pauline, en tant que doctorante en sociologie, qu'est-ce que tu remarques sur ton terrain auprès des syndicalistes cadres à ce sujet ?
Alors bonjour à toutes et tous. Alors pour répondre à ta question, déjà je dois dresser un contour de mon terrain pour avoir une vision plus nette de qui je parle. Donc moi je m'intéresse à l'engagement écologique des cadres qui ont à un moment donné choisi le syndicalisme pour porter leurs revendications écologiques. Ils n'ont pas tous la même porte d'entrée à la fois dans le syndicalisme et aussi dans ce militantisme en faveur de la cause écologique. Donc certains ils se revendiquent pas spécialement comme ayant à cœur la lutte écologique, mais ils sont tout de même amenés à traiter de sujets environnementaux. Par exemple s'ils sont sollicités pour intégrer une commission environnement parce que on manque de personnes ou parce qu'il y a des sujets environnementaux qui sont abordés lors de CSE par exemple, comme c'est de plus en plus le cas dans certains CSE en tout cas. Et dans ce cas, c'est plus l'intégration de l'écologie à l'agenda des entreprises qui amène un positionnement de la part de ces cadres. Et donc oui, j'ai pu trouver quelques discours qui s'opposaient à cette fameuse écologie punitive. Donc ça peut prendre la forme d'une opposition à la mise en place de repas végétariens à la cantine. Mais malgré tout, mon terrain, il ne va pas jusqu'à couvrir une forme de récupération de cet argument par l'extrême droite. Donc, ce n'est pas un comportement électoral que j'ai pu rencontrer sur mon terrain. Et puis, c'est un positionnement qui est assez marginal en réalité. En tout cas, sur mon terrain. Et globalement, j'ai surtout des récits de personnes qui sont promotrices de ce que tu as appelé une écologie consensuelle. En sociologie, on pourrait parler d'écologie réformatrice, comme le dirait Jean-Baptiste Combi, qui marque une volonté de réformer notre société pour qu'elle soit plus écologique, mais sans pour autant rompre avec le système capitaliste et ses structures sociales et économiques. Donc il semble que c'est ça dont tu parles quand tu parles d'écologie consensuelle. Et une des formes les plus courantes qu'elle prend dans les entreprises, c'est effectivement de se prononcer en faveur de déploiement de dispositifs RSE. Et une grande partie d'entre eux, ils occupent eux-mêmes des postes en tant que responsables RSE ou développement durable. Et pour ces cadres, la réalisation de soi, elle passe par leur travail. Et donc, leur engagement écologique prend une forme assez ambivalente parce qu'il faut à la fois travailler avec l'entreprise pour réduire leur bilan carbone, dont la continuité de leur travail, mais également donner voix à leurs critiques qui trouvent une place plus concrète dans leur section syndicale cette fois-ci.
Merci beaucoup Pauline. Et vous, Taïeb et Sébastien, quelle va être votre posture en tant que syndicaliste entre une soi-disant écologie punitive et une écologie consensuelle ou plutôt réformatrice si on reprend le concept de Jean-Baptiste Combi qui favorise du coup la RSE et les petits gestes.
Alors nous, on voit bien le piège. L'écologie des petits gestes, c'est celle qui considère que c'est uniquement la population, les salariés, les travailleurs et travailleuses qui doivent porter le coup de la bifurcation écologique. C'est l'écologie libérale qui culpabilise les individus mais ne fait pas payer les vrais pollueurs qui sont les grands patrons mais aussi les plus riches.
Les responsables, quoi.
Exactement. Donc cette écologie, elle prête le flanc à la critique de l'écologie punitive. Mais face à cela, nous solidaires, hein, nous opposons à une écologie plutôt protectrice. Nous revendiquons des mesures qui permettent de mener la reconversion de l'appareil productif avec les travailleurs, bien sûr, et les travailleuses, et pas contre eux. Nous revendiquons un nouveau statut du salarié basé sur une sécurité sociale de l'environnement qui permette le maintien des droits à la formation, avec le maintien de l'ancienneté aussi et du salaire et de la rémunération entre deux emplois et la transférabilité dans le nouvel emploi sans passer par la case chômage ou France Travail. Voilà une des revendications qu'on apporte, que nous apportons à Solidaires.
Si je résume ce que tu dis, Taïeb, c'était pour qu'on mette les pieds dans le plat de l'écologie. Parce que, grosso modo, si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire, qu'on n'est pas tous égaux sur la responsabilité écologique, à commencer par effectivement celle de l'empreinte carbone. On parle de 10 tonnes, 9 tonnes et demie par français, mais quand on regarde, ça c'est une moyenne, et comme toutes les moyennes, c'est un mensonge, puisque la réalité, ça s'étale sur bien plus. Je crois qu'on avait vu ça l'année dernière avec Air Paris, ou avec le CITEPA, ça s'étale entre, on va dire, 2,5 et presque l'infini. Et c'est vrai que... Mais pourquoi vous ne le dites pas plus souvent, ça, les syndicats, on n'est pas égaux devant l'empreinte carbone.
Si je peux te permettre de te répondre, alors si,
t'es là pour ça. Hein.
Chez Solidaires, nous on le dit tout le temps. Il y a juste à visiter je vous invite à le faire, notre site internet.
On vous écoute pas assez.
Notre cahier revendicatif, où nous on est un syndicat de transformation sociale, et justement la transformation
sociale. Parce
que entre
l'empreinte carbone de l'ouvrier et du patron,
pas la même. Je suis d'accord avec toi.
Et surtout des actionnaires.
Je vais donner juste un exemple pour que vous ayez aussi une idée là-dessus. Alors que moi je suis travailleur dans l'aérien.
Oui.
Pendant le Covid, il y a eu la fermeture de l'espace aérien, de toutes les frontières. Mais il faut savoir, les seuls avions qui ont été autorisés à pouvoir voler, ce sont les avions du Grand Patronat, de Bolloré et compagnie, hein. Notamment les avions taxi. Vous voyez, on va toujours favoriser une catégorie par rapport à une autre, mais quand on va culpabiliser, on va toujours culpabiliser les plus pauvres. Et on le voit bien, et les moyens ne sont pas mis. Par exemple, je rebondis dessus aussi sur le transport, où on voit que on a des régions, mais rien qu'en Île-de-France, on a des quartiers, des villes de banlieue qui sont défavorisées, à qui n'ont pas la possibilité justement de prendre les transports en commun. Voilà,
donc tu voudrais qu'on mette en évidence ces inégalités.
Exactement, parce que les inégalités, elles sont concrètes, mais elles sont là aussi, elles sont là, elles sont visibles. Tu parlais je crois que c'est toi qui parlais du Paris, je donne un exemple, je reviens encore sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Faut savoir que Paris n'intervient pas sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, alors que des travailleurs et des travailleuses sont les premières victimes de la pollution de l'air dans un aéroport. Il y a une enquête qui a été faite du Parisien. Un travailleur de l'aérien dans l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ça équivaut à un travailleur de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle qui va rester toute la journée sur un aéroport, ça équivaut à rester toute la journée sur le périphérique parisien. Et ça, l'État, elle...
Ok, alors Ben, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe la parole à Sébastien ?
Ça, c'est une contradiction incroyable, c'est qu'on doit à la fois défendre l'emploi et on doit en même temps défendre une certaine qualité de vie. Et c'est pas évident, probablement.
Je peux répondre avant de passer...
Ouais, volontiers.
Ce que tu dis, c'est très très intéressant.
C'est pour ça qu'il revient toutes les semaines.
Je fais partie d'un secteur, je suis un travailleur d'un secteur qui pollue. Hein. Je vais revenir sur la période du Covid, hein, où c'est après, quand l'activité a redémarré, on a bien vu, vous regardez dans le presse de l'époque, les entreprises de l'aérien, elles ont eu du mal à recruter. Pourquoi elles ont eu du mal à recruter alors que c'était des salariés qui étaient en activité partielle, puisque une grande partie n'est pas revenue sur...
Avant, il y a eu beaucoup de démissions, et pourquoi dans le tien ?
C'est ce qu'on a mis en place aussi syndicalement avec la CGT et d'autres syndicats. on a essayé de mettre en place une permanence pour pouvoir accompagner les travailleurs et les travailleuses dans une reconversion de leur emploi. On a eu énormément de demandes.
De gens qui ont quitté l'aérien
qui ont quitté l'aérien, qui ne sont jamais revenus.
Pourquoi ? Parce que c'était pas bien ou parce qu'ils avaient conscience qu'ils polluaient ?
Non, ils avaient conscience que ça polluait, mais aussi leur santé. Il faut savoir que la plupart des gens qui travaillent dans ce secteur-là, mais d'autres aussi, c'est des gens qui vivent en banlieue parisienne, dans le Saint-Saint-Denis, dans le Val-d'Oise, et autres. C'est pas forcément des personnes
Donc j'en parlerai à l'Institut des inégalités qui est à Tours, même pas à Angers comme Sébastien, et on en reparlera effectivement. Il y a beaucoup d'inégalités, y compris sur le terrain écologique.
Et je pense qu'il y a un chiffre qui est à retenir, hein, c'est le chiffre d'Oxfam. À l'échelle mondiale, les 1% les plus riches émettent deux fois plus de carbone que la moitié la plus pauvre. Hein. Et donc ça, je pense qu'on peut justement l'avoir en tête. Effectivement, l'empreinte carbone des classes populaires, elle est donc pas du tout équivalente à celle des classes privilégiées, comme on l'évoque depuis tout à l'heure. Pourtant, l'écologie, elle reste malgré tout décidée par les classes supérieures et semble être payée par celles et ceux qui n'ont pas la parole. Et du coup, par exemple...
Bon, Sébastien, dans ton domaine, alors toi, t'es chez les pompiers, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. Je voulais quand même répondre
au
fait que c'est les plus pauvres qui subissent le plus les impacts du réchauffement climatique parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'y soustraire. Ils peuvent pas, en fait, ils n'ont pas la clim, ils peuvent pas, quand ils n'ont pas de résidence secondaire, ils peuvent pas faire de télétravail, ils partent pas aux vacances aux Maldives. Donc, ce qui est punitif, c'est l'inaction. C'est de ne rien faire, surtout que c'est une fois de plus les plus précaires qui se retrouvent en fait en première ligne. C'est ceux qui ont les conditions de travail les plus pénibles, c'est-à-dire quand il fait chaud, c'est ceux qui montent nos murs, c'est ceux qui nettoient nos places. On voit bien en fait que ceux qui provoquent le réchauffement climatique sont ceux qui peuvent le plus facilement s'en soustraire et ils prennent des mesures qui finalement vont avoir tendance en fait à dire ah bah il faut couper l'eau du robinet. Alors, il faut le faire, mais pour autant c'est pas ça en fait qui va résoudre le problème.
Arrêter d'arroser la pelouse quoi, et de remplir la piscine.
Voilà, on en parlera aux Californiens. Effectivement, il y a la question sur l'usage de l'eau. Ils vont à la piscine, ils ont une piscine dans leur cour ou mais pas un bassin. C'est-à-dire, on le voit dans le sud de la France, j'ai découvert que l'été, on a des piscines publiques qui sont fermées, parce que ça coûte de l'argent, et que tous ceux qui ont de l'argent, eux, ils ont leur propre piscine. Et sur la captation d'eau, on peut dire « ça coûte pas grand-chose », etc., mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, et on dit « quand il y a le feu à côté, on peut prendre l'eau dans les piscines ». Ouais, et si jamais vous envoyez un 4x4 en fait, qui fait 15 ou 17 tonnes, elle a intérêt d'être rudement bien bitumée, votre piscine, si vous ne voulez pas la retrouver en morceaux. Ça veut dire qu'on nous dit « Ah, mais si jamais il y a besoin, le fait qu'il y ait des piscines privées, ça permet de l'utiliser. » Non, mais c'est pas vrai.
On ne va pas économiser des canadaires.
Non, il ne faut pas économiser les Canadiens, on a suffisamment économisé sur le sujet.
Et je me permets de reformuler ma question pour Pauline. Sur ton terrain, quelles vont être les positions des syndicalistes cadres autour des grandes décisions en faveur de l'écologie ?
Une première chose à dire déjà, c'est que les cadres, c'est une catégorie assez hétérogène, donc il n'y a pas un seul rapport à l'écologie. Pour reprendre les responsables RSE ou développement durable dont je parlais tout à l'heure, eux, leur mot d'ordre dans leur entreprise, c'est surtout la réduction du bilan carbone. Et donc, pour ça, ils travaillent beaucoup avec leur direction, avec leur entreprise, sur des documents qui sont produits par les dirigeants eux-mêmes. On pourrait dire, en termes sociologiques, que leur disposition professionnelle et leur position professionnelle, les enjeux joint à prendre en compte le besoin de croissance de leur entreprise parce que c'est des thématiques qui sont souvent intégrées aussi dans leurs revendications. C'est souvent des personnes qui sont syndiquées depuis pas très longtemps et une des choses qui est souvent faite pour à la fois prendre en compte la croissance de l'entreprise tout en réduisant le bilan carbone, c'est de réduire le bilan carbone des activités sociales et culturelles des CSE. Donc de plus en plus, on a des organisations partenaires qui proposent ce type d'accompagnement. On a une autre catégorie de syndicalistes qui sont beaucoup plus anciens cette fois-ci dans ce milieu-là et considèrent que l'écologie c'est au cœur de leur fonction syndicale. Ils sont un peu moins soucieux de la croissance de leur entreprise et sont aussi moins frileux à avoir une posture un peu plus en opposition avec la direction. On parle toujours de bilan carbone, mais cette fois-ci, on mobilise beaucoup plus des outils juridiques aussi pour mettre leur entreprise face au non-respect de leurs obligations légales.
Et donc, tu dirais, toi, que la majorité des syndicalistes cadres vont rester dans cette écologie qui va s'intéresser aux ASC, donc aux activités sociales et culturelles, et va moins remettre en question les questions de production ?
Je pense que je ne dirais pas ça pour autant. Okay. Il y a aussi une partie de cadres qui assument que pour eux, l'écologie, ça passe par de l'anticapitalisme. Et donc là, il y a ces cadres-là qui parlent directement de réduction des inégalités, qui pensent aussi d'ailleurs à la santé des travailleurs et qui vont parler du fait que certains travailleurs sont touchés de près par des produits chimiques, par exemple, qui sont aussi désastreux pour l'environnement. Donc ça existe. Okay. C'est pas la majorité de mon terrain, mais il y a quand même tout un pan de cadres qui militent en cette faveur.
Et dans les entreprises, est-ce que vous avez déjà vu des mouvements motivés par la question de la pollution, de l'empreinte carbone? Vas-y, Taïeb.
Désolé, je monopolise un petit peu la parole, mais après, moi,
Ouais, t'es pas venu pour rien, quoi.
Non, non. Non, parce que Alors, syndicalement, nous, on agit sur pas mal de sujets, notamment sur les méga-bassines, il n'y a aucun souci là-dessus. On était avec la CGT d'ailleurs, mais on s'est toujours mobilisé sur tout ce qui est enjeu écologique.
Aligre FM 93.1.
Mais après, je préfère parler d'un sujet que je maîtrise mieux, dans lequel j'ai 22 ans d'expérience, c'est l'aérien, et notamment sur les expansions des aéroports. Alors, syndicalement, nous, on s'est mobilisé à plusieurs reprises, déjà contre l'ouverture du T4, du terminal T4 de Roissy-Charles de Gaulle, mais aussi...
Les couloirs.
Non, pas les couloirs, c'est l'expansion, c'est l'agrandissement de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Avoir un quatrième terminal qui n'a aucune plus-value pour les travailleurs et les travailleuses, hormis créer de la précarisation.
Oui, parce qu'on nous présente toujours l'agrandissement, la croissance non. comme un fait absolu.
Et ce que l'aéroport de Paris a proposé pour cet aéroport, c'est de mettre en place de l'intelligence artificielle, que les passagers soient autonomes, qu'ils n'auront plus affaire à l'humain, quoi. Et donc, pour nous, déjà écologiquement...
Oui, c'est pas autonome, surtout automatisé.
Tout est automatique, mais pas que. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a vues, mais aussi sur le triangle de Gonesse, qui est pas loin de Roissy, où nous, on a pris position dès le début. On était contre le projet du grand centre
commercial.
Je crois que c'est le groupe...
Auchan.
Groupe chinois avec Auchan. Justement.
Ah, je savais pas qu'il y avait des Chinois derrière.
Si, c'est le groupe Vanda, je crois, si je me trompe pas. Où ils ont mis ça en place. Ils ont mis ça en place pour les emplois, alors qu'on sait très bien que c'est des conneries. Il y a tout autour, il y a plusieurs centres commerciaux qui sont en train de fermer un par un, des boutiques en train de fermer une par une.
Oui, c'est une espèce de folie,
de fuite en avant.
Et donc ça, les syndicats, vous pouvez tirer le frein à main, quoi.
Sur nous, on a même participé. Il y a eu une ZAD aussi qui a été faite sur place. On a participé activement. Et pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on fait partie, ce que je disais, on est fait partie aussi des premiers concernés. Quand je parle, par exemple, l'exemple du triangle de Gonesse, il est bien, parce que c'est en dessous, on a quoi? On a une nappe phréatique qui rafraîchit la nuit, qui rafraîchit tout le nord de Paris. Et en bétonisant.
En
bétonnant, exactement. ça augmente en température, et les premiers concernés, c'est toujours les mêmes
habitants, quoi.
Exactement, c'est les mêmes habitants. Voilà, ça, ce sont des luttes que nous.
Oui, donc il faut effectivement rentrer dans les détails pour parler de ces choses-là, pour les rendre un petit peu plus perceptibles, parce qu'à force de généraliser, de globaliser, comme on aime bien faire dans le monde écologiste, on en finit par perdre les réalités concrètes de tout un chacun sur son terrain et dans son emploi. Mais Sébastien, tu avais sûrement quelque chose à rajouter.
J'habite pas trop loin de Notre-Dame-des-Landes, donc au moins il y a des combats en fait qu'on peut gagner. je vais vous parler d'un sujet qui a l'air anecdotique et qui pourrait se résoudre en pas grand-chose. Quand il y a des grands feux de forêt, tous les ans, on envoie des colonnes de renfort dans le sud de la France ou maintenant en fait en Bretagne, etc. Et on n'utilise jamais le train. Jamais. On arrive à mettre des...
reste dans ton micro.
On arrive à mettre des, des chars pour le 14 juillet sur des trains. À Angers, il y a un quai militaire. Ben, quand en 2022, il y avait des pompiers d'Angers qui étaient en renfort pour les grands feux en Gironde, ben, le génie d'Angers, il est parti par le train. Et les pompiers, ils sont partis par la route, avec des engins qui consomment 30 litres au 100. Les pompiers, on les fait conduire de nuit. Donc ils arrivent, ils ont 24 heures ils ont une nuit blanche dans les pattes. Et puis après, on les engage pendant 48 ou 72 heures, en fait, en attaque, où ils vont dérouler du tuyau, courir après le feu.
Donc il y a du gaspillage et il y a des conditions de travail, en plus, qui sont délirantes.
Et c'est juste une question de bonne volonté et d'organisation.
Planification, quoi.
Et c'est notre premier, normalement, le premier travail du pompier, c'est l'anticipation avant l'intervention. C'est-à-dire, il la prépare, on fait des plans, que ce soit des plans hors sec, etc. Notre travail, c'est l'anticipation. Et il suffirait juste, en fait, que le ministre de l'Intérieur, ils disent, on fait ça. La SNCF, ils fabriquent, en fait, les wagons. Ils savent le faire, en fait, pour transporter tout, n'importe quoi. Puisque, de toute manière, il y a un point de rencontre pour les engins, et que d'habitude, on se suit, en fait, en faisant le petit train.
Oui, mais comme dirait mon collègue François, il y a un problème au fond de concertation.
Carrément. Parce que ça veut dire qu'entre vous, tout le monde trouve, en fait, on a vu des préfets, des maires.
Au fond, parce que tout le monde nous dit que c'est une super idée. Le collectif de la CGT, là, que tu portes des services départementaux d'incendie, etc., il porte ce sujet. Et donc, j'imagine que vous luttez pour ça. Et
aujourd'hui, la SNCF, nos collègues en fait de la CGT SNCF, ils disent super, on a un outil, on utilise de moins en moins le fret. Enfin, la SNCF, c'est le premier transporteur routier, ça peut paraître un peu bizarre. On a l'outil, il faut préserver l'outil, il est sous-utilisé. On a l'idée parce que une fois qu'on fait ça, on peut le faire pour le préventif. Mais on peut le faire pour le... Alors, le préventif, il faut imaginer qu'on a parfois 10 000 personnes qui vont être massées pour un feu, en fait, avec des centaines d'engins qui consomment beaucoup, parce que c'est des 4x4, avec des capacités particulières, et bon, c'est pas des engins de route. Ça veut dire que quand on a des copains de messe qui descendent avec des engins, en fait, à Aubagne, qui font 4 fois l'aller-retour dans l'été, à chaque fois qu'il y a un aller-retour, on change tous les pneus de tous les camions à 500 euros le pneu. Ben ça, en vrai, si on les met sur le train... On utilise un outil collectif intéressant, en fait, qui s'appelle le fret. On permet aux pompiers, en fait, d'être moins fatigués quand ils arrivent. On peut les engager plus facilement. On améliore les conditions de travail. On évite de gaspiller en fait, du gasoil pour rien. Et en vrai, c'est possible. On l'a à portée de main. Faut-il, en fait, bouger les politiques.
Et donc là, tu nous dis que le monde du travail, qui connaît les réalités techniques, est tout à fait capable de concevoir et d'organiser ça.
Et de concilier, au fond, les exigences écolo.
Alors pourquoi ça se fait pas? Parce qu'on vous écoute pas ou quoi?
Alors, c'est pas, ça se fait pas. Ça ne se fait plus. Puisque dans les années 80, en fait, ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait. Et donc, si vous avez des auditeurs qui ont des photos, en fait, des trains avec les camions de pompiers qui sont partis dans les années 80, en fait, de la région centre, on est preneurs, puisque la SNCF disait qu'elle pouvait nous en fournir. Et puis finalement, non, parce qu'ils se sont dit qu'on leur reprochait peut-être. Et aujourd'hui, on a des gens, s'il y a des gens qui peuvent témoigner, en fait, qui étaient dans ces camions, parce que, on voit bien, en théorie, ça existe. Et même en regardant dans les archives départementales, aujourd'hui, on sait, en fait, on a des traces comme quoi ça existait, mais pas des traces qu'on puisse produire facilement quand on va rencontrer ministre.
C'est qu'on peut s'organiser autrement, quoi.
On peut parfaitement s'organiser autrement. Et
donc sur la question de la gestion des feux, mais on pourrait en parler peut-être sur les PFAS que tu évoquais tout à l'heure avant le début de l'émission. Il y a plein de sujets sur lesquels le monde du travail pourrait se saisir et apporter des solutions.
Et j'ai carrément un autre sujet pour vous. Et j'adresse ma question à nos représentants syndicaux. Donc on parle beaucoup des COP comme des lieux centraux de prise de décision sur les politiques climatiques à l'échelle internationale. Mais comment pour vous, justement, ce monde du travail, il s'exprime dans les grandes négociations internationales? Est-ce que les syndicats ils sont organisés pour faire entendre le point de vue des travailleurs et des travailleuses dans ces instances?
Allez, Taïeb, je vois que ça... la réponse brûle les lèvres.
C'est comme ça qu'il faut poser la question.
Déjà, c'est une question qui est un peu... je vais y répondre.
Ouais, oui.
Mais t'as pas envie d'aller à la COP
en toute honnêteté, la COP, au moins, elle a permis justement de mettre les gouvernements face à leurs responsabilités, et surtout d'aborder certains sujets qui n'auraient pas été abordés par le passé. Donc nous, si on pense vraiment, c'est la seule chose qu'on va dire qui peut être, on va dire, si on peut dire un point positif, c'est sur la place publique. je pense vraiment. Hein. Mais sinon, pour nous, en réalité, on n'a pas besoin de... Si. Nous, on va plus se mettre en lien avec nos camarades d'autres organisations, que ce soit
ça peut servir à ça, une COP. Hein.
Au Brésil, par exemple, mais ça ne sera pas pendant les réunions, on va dire, officielles. On n'a pas besoin de ça.
T'inquiète pas, les lobbies du pétrole, ils savent très bien utiliser la COP.
Exactement. Donc là, c'est plus un lieu où les lobbies se trouvent.
Mais pourquoi pourquoi vous ne feriez pas justement alliance et profiter de ces moments de regroupement pour faire force?
Justement, c'est ce qu'on fait. Quoi, je disais, nous,
mais il faut parler dans le micro.
Je pense que la question était aussi de savoir si vous étiez bien représenté dans ces différentes délégations nationales. Je pense que c'est ça aussi la question. Alors, qu'on peut poser.
Moi, je vais laisser la CGT après répondre pour la CGT, mais pour nous, ce que je dis, officiellement, on n'a pas de représentation au sein de la COP. On n'est pas invité. Mais nous, quand on par exemple, à la prochaine au Brésil.
Non, le Brésil, c'est fini. C'est la prochaine en Turquie.
En Turquie, je veux dire. Non, celle du Brésil, par exemple. Nous, on en a profité justement de rencontrer nos camarades qui sont sur place et notamment qui luttent justement pour la protection de leur terre. Voilà, nous, si on doit utiliser la COP, c'est sur des actions comme ça, qui sont des actions réelles et que c'est des actions locales.
Il n'y a pas de problème, il faut s'en saisir. Hein. Non,
c'est vrai. Allez, venir autour d'une table ronde avec tout le CAC 40 et tous les patrons du monde pour venir, ça, c'est pas trop notre...
On a bien compris.
Et qu'en est-il de la CGT, alors?
L'international, c'est tout le temps. Là, ouais. On était dans la flottille pour Gaza, on a envoyé en fait du matériel à Cuba qui souffre en fait du blocus américain. Et les COP, les grands, les syndicalistes, ils n'ont pas vocation à faire du lobbying. C'est-à-dire, c'est un travail de terrain. Et dans les COP, quand il y a des réunions, et parce qu'il y a toujours en fait des représentants CGT, mais ils sont pas dans les réunions, ils vont voir les travailleurs en fait qui sont plutôt dans les contre-sommets et qui viennent pour rappeler en fait que ils ont droit d'exister, à l'image des peuples autochtones en fait à l'ONU. S'il y a des endroits en fait où on est légitime à siéger à l'intérieur, c'est par exemple l'Organisation internationale du travail. Mm-hmm. Et on voit comment en fait les États-Unis ou même la France parfois s'assoit ou ne signe pas en fait les conventions. Ou oublient qu'elles ont signé les conventions et ne les appliquent pas.
Enfin, l'OIT, c'est quand même la seule agence onusienne qui dispose d'un dispositif spécial pour aussi les syndicats et les patrons.
C'est vrai, et c'est même en fait même la Société des Nations, puisque c'était avant, en fait, c'est 1919 vrai. En fait, la création de l'OIT. On a des représentants, et c'est aussi le seul endroit, par l'intermédiaire des points de contact en fait nationaux, où on peut mettre en demeure les gouvernements de se justifier quand, à l'intérieur des entreprises, on l'a fait, on a mené une action en fait pour, je vais pas citer la marque pour pas faire de, mais des grands groupes internationaux en fait qui sont présents dans plusieurs pays. On avait des copains colombiens, quand ils se syndiquaient, ben en fait ils tombaient dans les machines. Eh bien, on a saisi, nous, en France, pour obliger les grands groupes à rendre des comptes sous prétexte que ça se passe au Brésil. En fait, quand ils ont la même étiquette, ils ne peuvent pas s'en laver les mains.
Ok.
Je vois qu'il nous reste un peu de temps quand même pour approfondir autour de tes recherches, Pauline. Sur ton terrain, auprès des cadres syndicalistes, tu as observé des formes de syndicalisation qui divergent de ce qu'on peut avoir en tête au sujet d'un militantisme contestataire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Oui, c'est vrai. Donc l'écologie a produit un intérêt pour le syndicalisme de la part de cadres qui sont de prime abord très éloignés des sphères syndicales ou militantes de manière plus large. Il faut comprendre que pour ces cadres-là, donc spécifiquement eux, dans leur milieu, le syndicalisme est assez stigmatisé et mal vu. Et donc pour eux, les syndicalistes, ce sont des personnes qui gueulent pour rien, qui font grève pour reprendre leurs mots, qui ne sont pas dans le dialogue. Et donc pour se syndiquer, il faut qu'ils aient une approche un peu plus douce et modérée de l'image qu'ils en avaient. Donc tout ça, ça passe par une nouvelle image, donc un syndicalisme qui dialogue avec la direction, on travaille ensemble, on gomme aussi les divergences politiques de chacun. L'idée, c'est de dire qu'on travaille tous pour la même chose, indépendamment de nos convictions. Pour eux, c'est très important de savoir faire des compromis, d'arriver à des propositions qui ne sont pas conflictuelles, qui ne sont pas clivantes, qui peuvent potentiellement embarquer tout le monde, selon eux, hein, parce qu'évidemment, ce qui apparaît comme neutre ne l'est pas du tout. Et c'est pour ça qu'une grande action qui est menée, c'est celle de la sensibilisation population, donc faire prendre conscience aux autres et aux dirigeants de l'ampleur de la crise écologique, et ben en fait, pour eux, c'est ça qui amènera des changements substantiels dans la société. Donc pour le dire vite, c'est un manque de conscience qui expliquerait la crise écologique actuelle.
Et donc on perçoit vraiment une forme de déconflictualisation du syndicalisme.
Oui, mais ce qui est à préciser quand même, c'est que les cadres, ils rentrent dans un milieu syndical qui est déjà très contraint. Il y a déjà pas mal de réformes depuis plusieurs décennies maintenant, donc des réformes de décentralisation, de professionnalisation, qui fait qu'on valorise aussi cette forme de militantisme-là. En fait, ces cadres ont aussi peu de marge de manœuvre. Et donc, c'est pas des cadres qui, par la somme de leurs actions, auraient transformé des manières de militer, c'est qu'ils sont aussi dans un champ qui est très contraint. Et certains d'entre eux assument aussi s'accaparer ce type de stratégie de pacification pour avoir des petites victoires marginales, mais s'en déclarent frustrés.
Et je pense que justement, vous pouvez rebondir sur cet aspect justement très contraint de la syndicalisation, du syndicalisme aujourd'hui, notamment depuis les dernières réformes du droit du travail, etc. Comment est-ce que justement vous positionnez ?
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Peut-être qu'il faut reformuler la question pour qu'on puisse s'y raccrocher.
Bah justement, de ce que Pauline mentionnait sur cet aspect assez contraint du syndicalisme en entreprise, aujourd'hui, elle entraîne des syndicalisations et des actions qui sont moins conflictuelles de la part des cadres. Et vous, justement, votre posture, elle est différente. Et pour autant, vous subissez les mêmes réformes. Hein. Le droit du travail, il s'applique un peu pareil partout. Mais pour autant, vous agissez différemment.
Entre réforme et révolution.
Exactement.
Je suis fonctionnaire, donc en fait... Ouais. C'est un tout petit peu différent, ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pression. Après, il faut aussi élever en fait, le niveau de conscience politique à l'intérieur des entreprises pour éviter de faire du syndicalisme d'entreprise. Mmh. Élever, en fait, améliorer les conditions de travail, ça ne se fait pas aux dépens en fait, de la nature qui nous entoure. Mmh. Et la préservation de l'emploi, ça ne se fait pas au mépris de la santé des gens en fait, qui assurent le travail. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas accepter, sous prétexte que l'emploi serait menacé, surtout qu'on a tout un tas d'exemples qui nous ont montré que ça n'a pas marché, en fait, de tout accepter. C'est pas la préservation de l'emploi. Grosso modo, il faut avoir la conscience, en fait, que à la fois, on a la place dans l'entreprise, et aussi, en fait, ce que l'entreprise, elle apporte, en fait, à la société. Parce qu'il y a aussi des entreprises dont on peut bien se demander, en fait, quels bienfaits elles amènent à la société.
C'est tout le problème, par exemple, des entreprises d'armement. Non ?
Oui, oui, oui.
Est-ce que... Quel genre de défense on peut faire ? La défense de l'emploi, est-ce qu'elle est en contradiction avec la défense de la vie ?
Alors, la reconversion, en fait, ça existe. On n'est pas obligé de faire comme à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et reconvertir, en fait, d'une industrie de mort à une autre industrie de mort.
Non, on a fait la Vespa, quand même.
Mais on n'a pas fait que ça. C'était de la récup, la Vespa.
Ouais,
mais effectivement, il y a... on ne peut pas se laver les mains de ça. La reconversion, ça existe. Des projets industriels, on en a défendu. Et aujourd'hui, on peut aussi imaginer que l'armement, en fait, elle puisse aller vers le segment, en fait, de la sécurité civile ou d'autres. Je vous parlais aux antennes, en fait, des projets avec Thales, l'entreprise Thales, où on a des syndicalistes CGT qui aimeraient bien, en fait, ne pas vendre que des engins de mort. Et aujourd'hui, ils ont des outils qui seraient parfaitement utilisés en fait, pour la préservation du bien commun en fait, de l'environnement, plutôt que de balancer en fait, des choses qui tuent.
Et sur des questions plus terre-à-terre, comme par exemple la question du mouvement des migrations logement-travail, plus ça va, plus on a l'impression que les salariés habitent loin de leur lieu de travail, et ça pose quand même directement les problèmes de l'autonomie économique aussi pour là on est dans une crise des carburants, on le mesure tout de suite, mais est-ce que là-dessus vous réussissez à vous saisir de ça, à transformer ces problèmes en revendications?
Là, tu m'as posé une bonne question. Là.
Ah, je l'ai mal posé, mais c'était très bien.
Bien les autres aussi. Mais...
Allez, on fait vite parce qu'il ne reste plus que 4 minutes.
Déjà, moi j'appelle déjà ce que tu disais par rapport à la pression. Moi, j'appelle pas. C'est pas une pression. Moi, c'est de la répression. Déjà, c'est quand on essaie de casser un syndicat autrui, c'est une répression. Ensuite, par rapport à ce que tu viens de ta question, nous on le constate, hein, les travailleurs ils habitent de plus en
parce
plus.
Pour trouver des loyers de moins en moins chers, mais bon.
Exactement, de moins en moins chers. Mais en réalité, on voit que les services publics sont inexistants. La plupart sont obligés de prendre leur véhicule. On a beaucoup qui travaillent en heure décalée. Donc sans moyen de transport adéquat,
sans transport public, quoi.
Exactement, le transport public. Et c'est pour ça qu'on met justement à avoir un transport public qui soit à la hauteur de ce que demande.
Donc effectivement, ce que tu nous dis, c'est que vous pourriez être un peu plus porteur des solutions collectives face à gérer à souvent, comment dire, l'écologie entre guillemets libérale, prône plutôt des solutions individuelles, la voiture électrique en étant un exemple
représentatif.
Totalement représentatif.
C'est une connerie déjà, même nous sur la voiture électrique, on n'est pas trop dans cette...
D'accord. Bon, en tout cas, moi, parce que l'heure tourne...
Je t'arrête, ouais, c'est vraiment... nous, on milite pour avoir des transports publics qui soient dignes, quoi, même pas juste d'en avoir, parce qu'il y a des secteurs où il n'y en a même pas, donc il y a des régions où il n'y a même pas de transport, donc au moins qu'on essaie de régler ce problème-là, et déjà je pense que ça serait une belle victoire.
Ok, Sébastien, allez, on fait...
Ouais, je sens, vas-y.
Non mais il y a des départements où il n'y a même plus de gare, c'est-à-dire que les gens, en fait, c'est ou la route, ou tu restes chez toi.
Il est grand temps qu'on parle des solutions collectives, quoi. Donc, et cette question du syndicalisme et de l'écologie, c'est ça que ça pose. C'est les solutions collectives face aux solutions individuelles.
Et ne pas laisser tomber l'aménagement du territoire. Parce que sous prétexte qu'il y a moins de population à un endroit, en fait, on se défait des solutions collectives.
Ouais.
D'accord. Donc il faudrait un peu plus penser à tout ça. On va pas tarder, être obligé. Alors, on a déjà zappé la pause musicale, tant pis pour elle, on la mettra la semaine prochaine.
Mais tu as une bonne conclusion positive, là.
Non, là, j'invente rien, j'ai pas de conclusion toute préparée. Peut-être que Laure t'en avait préparé une.
Ouais, effectivement, vu qu'on arrive déjà à la fin de notre émission, ce soir, on a montré que l'écologie n'est pas seulement une affaire de gestes individuels ou de discours institutionnels, elle se joue très concrètement dans le monde du travail. À travers vos interventions, on voit que les syndicats ne sont pas en marge de ces enjeux. Ils sont des acteurs centraux de la transition sociale et écologique, au croisement des conditions de travail, de la santé et des choix productifs. Merci beaucoup à vous trois pour ces échanges riches et ancrés dans le réel.
Et moi, j'avais une question toute bête. On a longtemps parlé des écolo-bobos, mais est-ce qu'on pourra un jour parler des écolo-prolos ?
Il aime bien les jeux de mots comme ça.
La suite au prochain épisode.
Donc, prolétaire, c'est pas du tout péjoratif. On l'a bien compris.
Non, c'est le productivisme, moi qui m'a interpellé.
Ouais.
Bah oui, parce que le problème, c'est pas forcément du productivisme.
J'ai dit les choix productifs pour parler de la production en tant que telle, mais ça veut pas dire que je défends un productivisme, entendu.
C'est important.
Je dis l'écologie populaire.
D'accord.
Et sociale.
Ouais. Bon, en tout cas, on va remercier la technique qui a œuvré magistralement, surtout pour la deuxième pause musicale. Ils ont réussi à la remettre dans leur sac sans nous en vouloir. Bon, il nous reste à vous souhaiter une excellente semaine, et puis vous nous retrouverez la semaine prochaine sur un tout autre sujet, ce sera la pollution plastique atteint le cerveau, puis bientôt on parlera des PFAS, on rappellera notre pompier, pas volontaire, professionnel, hein, Sébastien, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Bon, écoute, on vous remercie. Pauline, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, Taïeb, merci par ta virulence. On t'a vu décoller plus d'une fois dans l'émission. C'était très, très bien. Et Ben, je te dis aussi à la semaine prochaine. Et puis, Laure, quand tu veux.
Ouais.
Bonne semaine à tous.
Allegre FM 93.1.